Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc dans nos lectures en liberté pour la suite du fameux roman de Conan Doyle, Le chien des Baskerville. Le voyage fut bref et agréable. Je fis plus ample connaissance avec mes deux compagnons et je jouai avec l'épagneul du docteur Mortimer pour me distraire. En peu de temps, le sol était devenu rougeâtre. La brique s'était transformée en granit. Des vaches rouges paissaient dans des champs clôturés où l'herbe bien verte et une végétation plus luxuriante annonçaient une humidité plus grande. Le jeune Baskerville regardait avidement par la fenêtre du compartiment. Et il poussa de véritables cris de joie quand il reconnut le décor familial du Devon. Oh, je me suis beaucoup promené de part de monde depuis que j'ai quitté ces lieux, me dit-il, mais jamais je n'ai vu d'endroit comparable à ceci. Je ne connais pas un habitant du Devon qui ne mette son pays natal au-dessus de tout, répondis-je. Ben, cela dépend de la race autant que du pays, observa le docteur Mortimer. Regardez notre ami, un simple coup d'œil vous révèle la tête arrondie du Celte, à l'intérieur de laquelle bouillonnent deux qualités du Celte, l'enthousiasme et la faculté de s'attacher. La tête du pauvre Sir Charles était d'un type très rare, avec des caractéristiques mi-gaéliques, mi-inverniennes. Mais vous étiez fort jeune quand vous avez vu pour la dernière fois Baskerville Hall, n'est-ce pas ? Quand mon père est mort, j'avais une dizaine d'années et je n'avais jamais vu le Hall, car il habitait une villa sur la côte du Sud. De là, je partis directement pour l'Amérique. Tout est aussi neuf pour moi que pour le docteur Watson et j'attends avec impatience de voir la lande. Mais alors, votre désir va être promptement exaucé, répondit le docteur Mortimer, car voici les premiers contreforts de la lande. Au-delà des quadrilatères verts des champs et de la basse courbure d'une forêt, se dressait à distance une colline grise, mélancolique, dont le sommet était étrangement déchiqueté. Vu de si loin, sa forme se dessinait mal. Elle ressemblait au décor fantastique d'un rêve. Baskerville demeura assis sans mot dire, le regard immobilisé sur cette colline, et je devinais à son expression tout ce que représentait pour lui cette première vision d'un endroit sauvage sur lequel les hommes de son sang avaient longtemps régné et laissé des traces profondes. Assis dans le coin d'un prosaïque compartiment de chemin de fer avec son costume de tweed et son accent américain, il me donnait néanmoins, quand je scrutais son visage brun et sensible, l'impression qu'il était bien l'héritier de cette longue lignée de seigneurs à sang vif, farouche, dominateur. Dans les sourcils épais, les narines frémissantes, les grands yeux noisettes, il y avait de la fierté, du courage, de la force. Si la lande devait être l'objet d'investigations difficiles et dangereuses, Sir Henry était du moins un camarade en l'honneur de qui on pouvait prendre un risque en étant sûr qu'il le partagerait crânement. Le train s'arrêta à une petite gare et nous descendîmes. Dehors, derrière la barrière blanche et basse, un break attelé attendait. Notre arrivée prit l'allure d'un grand événement. Le chef de gare et les porteurs se disputèrent nos bagages. La campagne était paisible et douce. mais je m'étonnais de voir près de la porte deux militaires appuyés sur leurs fusils et qui nous dévisagèrent attentivement quand nous passâmes devant eux. Le cocher, petit bonhomme tout tordu au visage rude, salua Sir Henry Baskerville. Quand les bagages furent chargés, le break démarra et nous nous engageâmes sur une route large et blanche. De chaque côté s'étendaient des pâturages en pente. De vieilles maisons à pignons surgissaient parmi les feuillages serrés. Mais derrière cette campagne accueillante et éclairée par le soleil, courait toujours sombre contre le ciel du soir la longue incurvation de la lande sauvage que coupaient seulement des collines désolées aux arêtes vives. Le break tourna dans une route secondaire et nous grimpâmes alors par des chemins creusés d'ornières et défoncés par les siècles de roues vers un plateau bordé de mousses, de fougères, de ronces. Sans cesser de monter, nous franchîmes un pont étroit de pierre et nous longeâmes un petit torrent bruyant qui écumait et mugissait en descendant des rochers gris. La route et le torrent serpentaient à travers une vallée où abondaient chênes rabougris et sapins. À chaque tournant, Baskerville laissait échapper une exclamation de plaisir. Il dévorait des yeux le paysage et nous accablait de questions. Tout lui semblait magnifique. Par contre, je ne pouvais me défendre contre la mélancolie du décor qui reflétait si bien le déclin de l'année. Les chemins étaient tapissés de feuilles jaunes qui voletaient mollement en notre passage. Le fracas des roues s'amortissait sur des tas de végétation pourrissante, triste cadeau de bienvenue, me sembla-t-il, de la nature à l'héritier des Baskerville.
« Hello !» s'écria le docteur Mortimer. « Que veut dire cela ?»
En face de nous, un éperon de la lande faisait saillie, tout en haut, rigide et net comme une statue équestre, un soldat à cheval se dressait, le fusil couché en joue sur son avant-bras. Il surveillait la route que nous venions d'emprunter.
« Que veut dire ceci, Perkins ?» répéta le docteur Mortimer.
Notre cocher se tourna à demi sur le siège.
« Oh, un forçat s'est évadé de Princetown, monsieur !» Son évasion remonte à 3 jours. Les gardes surveillent toutes les routes et toutes les gares. Mais ils ne l'ont pas encore aperçu. Les fermiers des environs n'aiment pas ça, monsieur, comme de juste.
Mais je croyais que tout renseignement était récompensé par une somme de 5 livres.
Oui, monsieur.
Mais la chance de gagner 5 livres compte peu à côté de celle d'avoir la gorge tranchée.
C'est qu'il ne s'agit pas d'un forçat ordinaire. « Cet homme-là est capable de tout. »«
Et qui est-ce donc ?»«
Selden, l'assassin de Notting Hill. »
Je me souvenais bien de l'affaire. Holmes s'y était intéressé en raison de la particulière férocité du criminel et de son incroyable bestialité. Sa commutation de peine. Condamné à mort, il avait vu son châtiment ramené aux travaux forcés à perpétuité. Était dû au fait qu'il ne paraissait pas jouir de toutes ses facultés mentales. Notre voiture avait atteint le haut de la côte. Devant nous s'étendait la lande parsemée de pics coniques et de monts joints en dentelle. Un vent froid balayait le plateau et nous fit frissonner. Quelque part, au sein de cette désolation, le forçat évadé était tapis. Caché dans un trou comme une bête sauvage, sans doute ivre de haine contre l'humanité qui l'avait rejeté au banc de la société. Image qui complétait parfaitement ce paysage dénudé, immense, glacial, sous un ciel qui s'assombrissait. Nous avions quitté les plaines fertiles. Elles étaient maintenant derrière et au-dessous de nous. Nous leur adressâmes un dernier regard. Les rayons obliques du soleil bas tissaient des fils d'or et de pourpre sur le sol rouge et sur les bois touffus. Notre route, à présent, surplombait des pentes escarpées, rousses et verdâtres, sur lesquelles des rocs gigantesques se tenaient en équilibre. De loin en loin, nous passions devant une petite maison aux murs et aux toits de pierre. Aucune plante grimpante n'en adoucissait l'aspect farouche. Une cuvette s'arrondit devant nous. À ses flancs s'accrochaient des chênes tordus et des sapins qui avaient été courbés par la fureur des tempêtes. Deux hautes tours, étroites, dépassaient des arbres. Le cocher, avec un geste de son fouet, nous les nomma. Baskerville Hall. Le propriétaire du domaine se souleva pour mieux voir. Ses yeux brillaient. Ses joues avaient pris de la couleur. Quelques minutes plus tard, nous atteignîmes la grille du pavillon. Enchevêtrement de nervures de fer forgé, soutenu à droite et à gauche par des piliers rongés par les intempéries, marquetés de mousse, surmontés par les têtes d'ours de Baskerville. Le pavillon, tout en granit noir et en chevron nu, était en ruine. Mais face à lui se dressait une bâtisse neuve à demi terminée. C'était la première réalisation du alors sud-africain de Sir Charles. Une fois franchi la grille, nous nous engageâmes dans l'avenue. Le bruit des roues s'étouffa une fois encore dans les feuilles mortes. Les branchages des vieux arbres formaient une voûte sombre au-dessus de nos têtes. Baskerville frémit en considérant la longue allée obscure au bout de laquelle, comme un fantôme, surgit le manoir. « C'était ici ? » interrogea-t-il à voix basse. « Non, l'allée des ifs se trouve de l'autre côté. » Le jeune héritier promena autour de lui un regard morose. « Ah, rien d'étonnant. Si mon oncle a eu l'impression dans un endroit pareil que des ennuis allaient fondre sur lui, murmura-t-il. Il y a de quoi user les nerfs de n'importe qui. Avant 6 mois, j'aurai ici une double rangée de lampadaires électriques et devant la porte du manoir, j'installerai une lampe de 1000 bougies. L'avenue aboutissait à une large pelouse de gazon tout près de la maison. Dans la lumière du crépuscule, je distinguai au centre un lourd bâtiment avec un porche en saillie. Toute la façade était couverte de lierre. Les seuls espaces nus étaient réservés à une fenêtre ou à un blason qui déchirait ici et là ce suaire sombre. Du bâtiment central s'élevaient les tours jumelles. Elles étaient anciennes, crénelées, percées de nombreuses meurtrières. À droite et à gauche, il y avait 2 ailes plus modernes en granit noir. De vagues lueurs filtraient derrière les lourdes fenêtres à meneaux. Une colonne de fumée noirâtre s'échappait des cheminées qui se projetaient hors d'un toit abrupt à angles aigus. « Bienvenue, Sir Henry. Soyez le bienvenu à Baskerville Hall. » Un homme de haute taille avait surgi de l'ombre du porche pour ouvrir la portière du break. Dans la lumière jaune de l'entrée se profila une silhouette de femme. Elle sortit pour aider l'homme à descendre nos bagages. « Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je rentre directement chez moi, Sir Henry ?» demanda le docteur Mortimer. « Ma femme m'attend. »« Vous resterez bien dîner avec nous ?»« Non. Il faut que je regagne Grimpen. » « Sans doute ai-je des malades à visiter. Je resterai volontiers pour vous montrer toute la maison, mais Barrymore sera un meilleur guide que moi. Bonsoir, et n'hésitez pas à m'envoyer chercher, si je peux vous rendre service. » Le bruit des roues décrut dans l'avenue pendant que Sir Henry et moi pénétrions dans le manoir. Derrière nous, la porte se referma lourdement.
« My hands round your throat. If I kill you now, well, they'll never know. Wake me up if I'm sleeping. By the look in your eyes, I know the time's nearly come. Wake me up, 'cause I'm dreaming. Well, they'll never believe what's been happening here. But caught in my mind, there's a way to get out. Ooh.
Wake me up, 'cause I'm dreaming. Well, they'll never believe it. So hush now, my baby, please don't cry. Everything's gonna be alright. Hush now, darling, I can hear you screaming. Let me hold you until the morning comes. So tell me this is what you want. You can whisper it soft or you can scream it out loud. There's still time to change your mind, but do it now before tomorrow comes. Wake me up, 'cause I'm dreaming. Well, I'll never believe it. So hush now, my baby, please don't cry. Everything's gonna be alright. Hush now, darling, I can hear you screaming. Let me hold you until the morning comes. Till the morning comes. Is fading, but the stars are dancing bright. My mind is racing like the clouds across the sky. How did you make me go this far?
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Retour au chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle.
Je me représentais bien le manoir ainsi, dit Sir Henry. N'est-ce pas l'image exacte d'une vieille demeure familiale? Quand je pense que ce sont les mêmes murs entre lesquels mes ancêtres ont vécu depuis 500 ans, j'en suis presque pétrifié de solennité.
Son visage s'éclaira d'un enthousiasme enfantin. À la place où il se tenait, il était en pleine lumière. Mais des ombres allongées rampaient le long des murs et dessinaient une sorte de dais au-dessus de lui. Barrymore avait déposé nos bagages dans nos chambres, et il était venu nous rejoindre. Toute son attitude traduisait le bon serviteur. Il avait de la prestance. Il était grand, bien bâti, sa physionomie était pâle et distinguée. Il portait une barbe noire, taillée en carré.
« Désirez-vous que le dîner soit servi tout de suite, monsieur ?
Est-il prêt ?
Bon, il sera prêt dans quelques instants, monsieur. Vous trouverez de l'eau chaude dans vos chambres.
Ma femme et moi serons heureux, Sir Henry, de demeurer avec vous jusqu'à ce que vous ayez pris vos dispositions, mais... vous comprendrez qu'étant donné les nouvelles circonstances, cette maison exigera un personnel considérable.
Bah, quelles nouvelles circonstances ?
Je voulais dire seulement que Sir Charles, monsieur, menait une existence très retirée et que nous pouvions suffire à son service.
Vous voudrez sans doute vivre dans une moins grande solitude. Vous devrez donc transformer le train de la maison.
« Dois-je comprendre que votre femme et vous souhaiteriez me quitter ?»«
Uniquement quand cela ne vous dérangera pas, monsieur. »«
Mais votre famille a été chez nous depuis plusieurs générations, n'est-ce pas ? Je serais désolé de commencer mon existence ici en rompant un ancien lien de famille. »
Je crus discerner une certaine émotion sur le visage pâle du maître d'hôtel.
« J'éprouve le même sentiment, monsieur, et ma femme aussi, mais, pour vous dire toute la vérité, monsieur, nous étions tous deux très attachés à Sir Charles, et sa mort nous a bouleversés. Cette maison nous est devenue tout à fait pénible. Je crains que nous ne nous sentions jamais plus à l'aise dans Baskerville Hall.
Mais quelles sont vos intentions ?
Je pense, monsieur, que nous pourrons nous installer à notre compte dans un commerce quelconque. La générosité de Sir Charles nous en a procuré les moyens. Mais pour l'instant, monsieur, je ferai mieux de vous conduire à vos chambres.
Une galerie carrée à balustrade courait le long du vieux vestibule. Un double escalier y donnait accès. De ce palier central, deux couloirs fort longs s'étendaient sur toute la longueur du manoir. Les chambres donnaient toutes sur ces couloirs. La mienne se trouvait dans la même aile que celle de Baskerville et presque attenante. Elles nous semblèrent beaucoup plus modernes que la partie centrale du bâtiment. Du papier clair recouvrait les murs. De nombreuses bougies m'aidèrent à chasser la sinistre impression que notre arrivée avait ancrée dans mon esprit. Mais la salle à manger, qui donnait sur le vestibule, était peuplée de ténèbres et d'ombres. Imaginez une pièce rectangulaire avec une marche pour séparer l'estrade où mangeait la famille de la partie inférieure réservée aux serviteurs. À une extrémité, un balcon pour musiciens la surplombait. Des poutres noircies décoraient un plafond que la fumée n'avait guère épargné. Avec des dizaines de torches flamboyantes, la couleur et la gaieté d'un banquet de jadis, l'atmosphère aurait été transformée. Mais pour l'heure, entre deux gentlemen vêtus de noir et assis dans le petit cercle de lumière projeté par une lampe à abat-jour, il y avait de quoi être déprimé et ne pas avoir envie de bavarder. Toute une rangée d'ancêtres dans une bizarre variété de costumes, depuis le chevalier élisabétain jusqu'au dandy de la Régence, plongeaient leur regard fixe sur nous et nous impressionnaient par leur présence silencieuse. Nous n'échangeâmes que peu de mots, et pour ma part, je ne fus pas mécontent lorsque le repas eut pris fin et que nous nous fûmes retirés dans une salle de billard plus récente pour fumer une cigarette.
« Ma parole, ce n'est pas un endroit bien gai, » me dit Sir Henry. « Je suppose que l'on peut s'y accoutumer, mais maintenant je me sens un peu hors de l'ambiance. Je ne m'étonne plus que mon oncle soit devenu un peu nerveux en vivant seul dans une pareille maison. Cependant, si cela vous convient, nous irons nous reposer de bonne heure ce soir, et demain matin peut-être l'atmosphère nous semblera-t-elle moins sinistre. »
J'écartai mes rideaux avant de me mettre au lit et je regardai par la fenêtre. Elle s'ouvrait sur la pelouse en gazon qui s'étendait devant la façade du manoir. Au-delà de la pelouse, deux taillis gémissaient et se balançaient au vent qui se levait. Une demi-lune apparaissait entre les nuages qui se hâtaient. Dans sa lumière froide, je vis derrière les taillis une bordure de rochers qui délimitait la mélancolie de la lande. Je refermai les rideaux. Cette impression dernière ne m'incita plus qu'à fermer l'œil et à dormir. Pourtant, ce n'était pas tout à fait la dernière impression de la journée. J'étais là, mais je n'avais pas sommeil. Je me tournai et me retournai dans mes draps à la recherche d'un repos qui se dérobait. Au loin, une horloge carillonnait tous les quarts d'heure. Ce bruit mis à part, un silence mortel régnait dans le manoir. Et puis tout à coup, du plus profond de la nuit, j'entendis un son clair, net, sur lequel il n'y avait pas moyen de se tromper. C'était des sanglots de femme. Les petits cris étouffés, étranglés d'une femme en proie à une panique incontrôlable. Je me mis sur mon séant et j'écoutai. Le bruit ne pouvait provenir que de la maison. Pendant une demi-heure, je tendis l'oreille, tout sens en alerte. Mais je n'entendis plus rien que les carillons de l'horloge et le frémissement du lierre sur le mur.
La beauté fraîche du lendemain matin nous aida à effacer de notre mémoire l'impression grise et lugubre de notre premier contact avec Baskerville Hall. Tandis que Sir Henry et moi étions assis devant notre petit déjeuner, le soleil déversait ses flots lumineux à travers les hautes fenêtres à meneaux, parsemait de taches colorées les armoiries des murs. Sous ses rayons dorés, les panneaux de chêne revêtaient l'éclat du bronze. Il était difficile de réaliser mentalement que cette pièce était celle qui nous avait tellement désenchantés la veille au soir.
« Je crois que ce n'est pas la maison qui est à blâmer, mais nous, » dit le baronnet. « Nous étions fatigués par le voyage, gelés par cette promenade en voiture. Voilà pourquoi cette demeure nous avait paru maussade. À présent que nous sommes reposés, elle est toute en gaieté. »
Et pourtant, l'imagination n'est pas la seule cause, répondis-je. Par exemple, n'auriez-vous pas entendu quelqu'un, une femme probablement, sangloter pendant la nuit ?
Ben, c'est curieux. Quand j'étais déjà à moitié endormi, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à cela. J'ai guetté un moment, puis plus rien. Alors j'ai conclu que c'était un cauchemar.
Moi, je l'ai entendu distinctement, et je suis sûr qu'il s'agissait bel et bien d'une femme qui sanglotait.
Nous allons tout de suite demander.
Il sonna et interrogea Barrymore. Il me sembla que le visage blême du maître d'hôtel se fit plus blanc quand il entendit les questions que lui posait son maître.
Ben, « Il n'y a que deux femmes dans la maison, sœur Henri, répondit-il. L'une est la laveuse de vaisselle qui couche dans l'autre aile. L'autre est ma femme et je peux vous jurer qu'elle n'a pas pleuré. »
Et pourtant, il mentait. Après le déjeuner, le hasard fit que je rencontrai Madame Barrymore dans le couloir. Le soleil éclaira son visage. C'était une grosse femme sans expression, aux traits épais, à la bouche serrée. Mais ses yeux étaient tout rouges, et ils me regardèrent entre des paupières boursouflées. C'était donc elle qui avait pleuré pendant la nuit. Et si elle avait pleuré, son mari devait le savoir. Cependant, il avait choisi le risque évident d'être démenti et il avait nié que ce fût sa femme. Pourquoi ? Et pourquoi avait-elle sangloté d'une façon aussi dramatique ?
Déjà autour de ce bel homme pâle à la barbe noire flottait une atmosphère de mystère et de ténèbres.
C'était lui qui le premier avait découvert le corps de Sir Charles. Et nous n'avions que son témoignage pour toutes les circonstances qui avaient précédé et entouré la mort du vieillard. Était-il possible que ce Barrymore fût l'espion que nous avions aperçu en fiacre dans Regent Street ? La barbe pouvait être la même. Le cocher avait dépeint un homme relativement moins grand, mais il avait pu se tromper. Comment éclaircir définitivement ce point ?
La première chose à faire était d'aller voir le chef du bureau de poste de Grimpen et de vérifier si le télégramme test avait bien été remis à Barrymore en personne. Quelle que fût la réponse, j'aurais au moins un fait à rapporter à Sherlock Holmes.
Sir Henry ayant de nombreux papiers à examiner après le petit déjeuner, j'avais donc le loisir de procéder à mon enquête.
Ce fut une promenade plaisante de 7 kilomètres en bordure de la lande. Elle me mena finalement à un petit hameau gris. Deux maisons plus importantes que les autres étaient l'auberge et la demeure du docteur Mortimer. Le chef du bureau de poste qui tenait l'épicerie du village se souvenait fort bien du télégramme.
« En effet, monsieur, me dit-il, le télégramme a été remis à monsieur Barrymore comme vous m'en aviez prié. »
Qui le lui a remis ?
« Mon fils, James, tu as remis le télégramme à M. Barrymore la semaine dernière, n'est-ce pas ?»«
Oui, papa, je lui ai remis. » »«
En main propre ?»«
Voilà, il était dans le grenier, je n'ai donc pas pu le lui remettre en main propre, mais je l'ai donné à Mme Barrymore et elle m'a promis d'aller le lui porter immédiatement. »«
As-tu vu M. Barrymore ?»«
Non, je vous dis qu'il était dans le grenier.
»« Si tu ne l'as pas vu, comment sais-tu qu'il était dans le grenier ?»
Ben, sûrement que sa femme savait où il était, répondit le petit facteur. Est-ce qu'il n'a pas reçu le télégramme? S'il y a faute, c'est à Monsieur Barrymore de se plaindre.
Il me parut inutile de poursuivre l'enquête. Mais il était clair que Holmes avait eu beau faire, nous ne détenions pas la preuve que Barrymore était ailleurs qu'à Londres ce jour-là. Supposons qu'il s'y soit trouvé. Supposons que le même homme ait été le dernier à voir Sir Charles vivant et le premier à filer le nouvel héritier dès son arrivée en Angleterre. Et alors, était-il un agent? Avait-il un plan strictement personnel? Quel intérêt pouvait-il avoir à persécuter la famille des Baskerville? Je réfléchis à l'étrange mise en garde découpée dans un éditorial du Time. Était-ce son œuvre ou l'œuvre de quelqu'un qui cherchait à contrecarrer ses desseins? Le seul motif concevable était celui qui avait été suggéré par Sir Henry. Si les Baskerville pouvaient être dégoûtés du manoir, les Barrymore jouiraient d'une demeure confortable. Voilà, nous avons terminé pour ce soir la suite de ces aventures de Sherlock Holmes, le chien des Baskerville, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.